Donc je vais lire dans le prophète Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Ésaïe, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, et tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit le jour de la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu l'y brises. Comme la journée de Madian, car toute chaussure comporte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors la semaine dernière, on avait parlé de cette année 2022 qui était bien déprimante avec les épidémies, avec les problèmes, les problèmes dont nous parlent les actualités, le réchauffement climatique, et puis on a une guerre. Et donc, Ésaïe aussi vivait des temps déprimés. Et quand même, il annonce un sujet de grande joie. Un sujet de grande joie à l'année, la venue du Fils de Dieu. Il dit, tu accordes de grandes joies comme on se réjouit à la moisson. Alors, comment te comprendre, nous maintenant on fait plus d'agriculture, mais à l'époque, les paysans, ben, ils semaient. Et puis voilà, ils devaient s'occuper de leur champ. Et puis il y avait un jour de récolte. C'est un petit peu comme nous, si on travaille, eh bien on a le salaire une fois à la fin de l'année. Alors ça, c'est un grand jour de joie. Peut-être vous êtes content quand c'est le début du mois que vous avez votre salaire. Mais là, c'est le salaire de toute une année, le jour de la moisson. Et vraiment, on est content. Et il parle d'une joie comme ça. Il parle également de souvenir d'une grande victoire. Et dans le passé, avec l'histoire de Madian. Et donc, il promet une grande joie à venir, une grande joie passée, une grande joie que l'on peut comprendre et une grande joie à venir également. Quand un jour... le bâton qui frappe son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Un jour, il va y avoir une libération. Toute chaussure comporte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Un jour, il n'y aura plus de guerre, plus de drame, plus d'oppression, parce qu'un enfant nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. Il s'agit bien d'un enfant roi. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et donc on peut, malgré les circonstances, être joyeux en se souvenant de ses promesses. Dieu a fait un cadeau. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Et il donne les noms de ce fils. Les personnes importantes, vous savez, on les présente. Quand on les présente, on donne leur nom, ce qu'ils ont obtenu, leur pouvoir, ils ont été par exemple, membres de l'Académie française, ils ont été responsables de telle entreprise, et on leur donne tout leur tout leur parcours et tous les titres de gloire qu'ils ont eu. Et là, donc, c'est ce que fait un petit peu le prophète en disant, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà. Et donc, ce matin, on va se réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire admirable conseiller. Admirable, prodigieux, merveilleux conseiller. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conseiller, hein? Alors, c'est une aide pour gouverner les pays. À ce moment-là, c'était clair dans la Bible, les conseillers sont ceux qui sont auprès des rois pour les aider à faire à prendre les bonnes décisions, à résoudre les situations compliquées, ils s'entouraient de conseillers. Et dans la Bible, donc, on voit que les rois suivent un conseil ou l'autre, et bien souvent, ils en font à leur tête, ou suivre des mauvais conseils. Et aujourd'hui encore, les présidents de la République, par exemple, ils s'entourent de conseillers pour arriver à diriger notre pays. Dernièrement, face au Covid, il y avait le conseil scientifique qui avait été mis en place. 16 personnes, des savants, des scientifiques qui étaient reconnus comme compétents, et ils étaient là pour aider le gouvernement à prendre les bonnes décisions. Bon, c'est pas pour autant que les Français étaient contents des décisions qui étaient prises, hein. Ils n'étaient pas pour autant rassurés par tous ces spécialistes. Mais voilà un petit peu un conseiller. Et là ici, il s'agit du Messie, qu'il va donner de divins conseils. Il est aussi Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors il y a une bonne nouvelle là, c'est qu'on a un super conseiller dont nos chefs ont besoin pour gouverner. Et les conseils qu'ils donnent ne sont pas des conseils d'hommes, mais les conseils de Dieu lui-même, On voit également que juste avant, au chapitre d'avant, le prophète Ésaïe a appelé cet enfant Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors il ne s'agit pas seulement d'un conseiller pour les grands de ce monde, pour ceux qui ont des responsabilités, ceux qui dirigent des pays. Non, ce très grand conseiller, les conseils de Dieu lui-même, ils sont pour tout le monde. Mais est-ce que le Seigneur Jésus est écouté pour autant? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on suit ses conseils? Généralement, non. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Quel est le problème? J'ai noté dans mes notes que s'il y a une question de conseil, donc c'est qu'il y a des décisions à prendre, et s'il y a des décisions à prendre, c'est qu'il y a une notion de liberté qui est derrière. Et la Bible enseigne sans détour que l'homme est naturellement pas libre. Il est naturellement esclave. Pourquoi ? Parce que l'histoire tout à fait du commencement raconte l'histoire d'Adam et Ève, et ils étaient créés libres pour adorer et pour se réjouir dans la création de Dieu. Mais hélas, vous savez l'histoire, Adam, il a écouté le conseil du serpent. Il a écouté le conseil du serpent, il est devenu esclave du péché. Et un esclave n'a plus besoin de conseils, ça ne lui sert plus à rien parce que il n'a pas de vrai choix à faire le concernant. Il est esclave et un esclave n'a rien à décider. Et c'est là la triste condition de tout homme qui vit coupé de Dieu. Mais si Dieu se présente, Jésus-Christ se présente comme un conseiller, ah ben c'est que quelque part Dieu veut nous rendre notre liberté. Le Messie conseiller sous-entend que les hommes redeviendront libres. Et Jésus lui-même a dit, si le Fils de l'homme lui-même vous affranchit, vous paye le montant qui est demandé, s'il vous affranchit, vous serez alors réellement libre. Et bien sûr, il parle de la liberté de ne pas pécher, de ne pas faire de tort ni à Dieu, ni à son voisin, de ne pas manquer la cible, de ne pas pervertir tout ce que Dieu a fait de bon pour le rendre toxique. Et la liberté dans la Bible n'existe pas en dehors de la communion de Dieu. Et il n'y a pas de communion avec Dieu sans la liberté. La liberté, c'est la communion. Et il n'y a pas de communion sans liberté. Et donc le Messie, dans notre texte au verset 3, apporte la liberté. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Tu les brises. Comme la journée de Madian. D'un coup, d'un seul. Transformer un peuple sous la servitude esclave en un peuple libéré. Et si nous croyons en Jésus-Christ ce matin, si nous avons la foi que nos péchés sont pardonnés par son sang à la croix, et si nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes donc libres. Certes, nous sommes libres. Mais alors se pose à nous le défi des décisions à prendre. Est-ce que vous vous sentez libre ce matin? Peut-être que la première pensée qui vient à notre mémoire, c'est de nous sentir assaillis par différentes contraintes, par des responsabilités que l'on n'a pas choisies, et par toutes sortes de difficultés, d'obligations, et à chaque jour des choix à faire, des décisions à prendre, et on se sent un petit peu dépassé par tout cela. Mais si vous êtes en communion avec Dieu, tout va bien. Il n'empêche que c'est pas facile de prendre les bonnes décisions. C'est pas facile que d'être considéré comme une personne libre et responsable d'elle-même. Et la bonne nouvelle, c'est que tel un héros bienveillant, tel un père aimant, tel un champion de la paix, Dieu nous propose ses conseils. Il nous propose ses conseils. Nous avons besoin de conseils. Dieu nous propose ses conseils. On a besoin de conseils dans nos activités de tous les jours. Je vais lire l'autre passage du prophète Ésaïe, un petit peu plus loin, au chapitre 28. Ésaïe 28. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix. Donc c'est Dieu qui parle. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après avoir aplani la surface, qu'il répand de la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne fouille pas la nigelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On épouse la roue du chariot et des chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, grande est sa sagesse. Dans ce texte, Dieu décrit les différentes façons de faire dans l'agriculture. À chaque façon de faire, il y a un sens, il y a une explication, il y a une méthode qui est suivie pour remplir un objectif précis. Et de la même façon, Dieu veut expliquer que tout ce qu'il fait a un but, tout ce qu'il fait a un objectif. Et accessoirement, nous apprenons ici que la science de l'agriculture ne doit pas cela au génie de l'homme, mais au conseil génial de Dieu. Dieu donne des bons conseils dans nos activités. Il y a un homme célèbre, un pasteur d'Alsacien du XVIIIe siècle qui s'appelait Frédéric Oberlin. Il est entré dans l'histoire comme celui qui a inventé l'école maternelle. Rien que ça. Il avait un grand souci pour ses paroissiens, de leurs conditions de vie, de la façon, de toutes les difficultés qu'ils rencontraient, et il a consacré sa vie à les aider. Et il avait remarqué que les mamans, pour s'occuper des travaux, des champs, qui étaient indispensables à faire, les enfants étaient un petit peu laissés à livrer à eux-mêmes. Et ils trouvaient que là, c'était quelque chose de dommage. Parce ils étaient persuadés que par l'éducation, la condition des paroissiens pouvait s'améliorer. Et donc, il a eu l'idée de louer un bâtiment et voilà. Il avait trouvé des jeunes femmes qui étaient motivées pour s'occuper des enfants et pour leur apprendre toutes sortes de choses pendant que leur maman était dans leurs occupations, dans leurs travaux. Et c'est ainsi que l'idée de l'école maternelle est arrivée. S'occuper des petits enfants et leur donner ne pas les laisser livrer à eux-mêmes quand ils étaient enfants, mais leur donner des bonnes occupations et à leur apprendre des petites choses qu'il allait leur servir plus tard et les faire ainsi démarrer dans de bonnes conditions. Et il a fait d'autres choses formidables, le pasteur Oberlin, Jean-Frédéric Oberlin. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres personnes qui ont ainsi pris des conseils auprès de Dieu par rapport à tous les besoins qu'ils voyaient auprès d'eux. Besoin de conseils dans nos activités. Besoin de conseils pour ne pas pécher également. On va lire le livre des Proverbes. Une très bonne adresse, un très bon livre, juste après les psaumes dans nos livres. Et voici comment le livre des Proverbes commence. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux personnes simples du discernement, au jeune homme de la connaissance, de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe, d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, ma fille, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête, et c'est une parure, un beau collier pour ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils te disent « Viens avec nous, dressant nos embûches, versant le sang », etc. Et là, il commence tout de suite, et toute la suite du livre, à donner des conseils pratiques pour la vie de tous les jours, pour ne pas pécher. On a besoin de conseils pour ne pas pécher. La parole de Dieu est là pour nous fournir des conseils dans toutes les situations que l'on peut rencontrer. Bon, quelqu'un dira, c'est formidable la Bible, la parole de Dieu, mais moi je voudrais bien quelqu'un besoin d'une personne, pour que ce soit quelqu'un de physique qui enfin physique d'une personne qui intervienne. On est à l'heure de où on fait tout par internet, tout ça, tout à distance, et tout est faisable, tout est facile à faire, mais beaucoup de personnes préféreraient quand même avoir affaire à une personne, à une vraie personne, et pas à une machine, pas à quelque chose qui n'a pas de vie. Le Messie est appelé un conseiller admirable, merveilleux, prodigieux. Le Nouveau Testament, il me semble qu'il développe pas beaucoup de ce côté de Jésus-Christ en tant que conseiller. Et donc, pour arriver à nous saisir de ça, on peut se tourner vers l'Ancien Testament. Et il y a des portraits de conseillers. Et à travers tous ces portraits de conseillers que l'on a dans l'Ancien Testament, on va pouvoir se faire une idée de ce qu'est Jésus-Christ, le conseiller divin. Alors, il y a beaucoup de passages que je vais vous lire. Le premier est un conseiller qui vient à notre secours. Un conseiller qui vient à notre secours. Si vous avez besoin de conseils pour la banque, par exemple, vous allez voir un conseiller bancaire. Mais là, Jésus-Christ vient à nous sans qu'on le sollicite de nos conseils. Exode chapitre 18, versets 13 à 24. Nous avons l'exemple de Jéthro, qui a donné de bons conseils à Moïse. Donc ils sont au mont Sinaï. Ils sont là pour recevoir les tables de la loi, tout le peuple de Dieu qui vient de sortir d'Égypte. Et donc Jéthro vient visiter Moïse, comme il a appris que Dieu était intervenu pour les enfants d'Israël. Et donc le lendemain de son arrivée, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui. Depuis le matin jusqu'au soir, le beau-père de Moïse, Jéthro, vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu. » Et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances, les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Verset 20. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme les chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'il prononce même sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela, que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il lui avait dit. Voilà. On a la situation de Moïse, un homme de Dieu remarquable, mais qu'il ne se rendait pas compte que là, il y avait un problème. Et il donne le conseil donc d'apprendre à tout le monde les instructions de Dieu, et puis ceux qui étaient vraiment intègres, ils allaient pouvoir s'occuper, en fonction de ce qu'ils avaient appris, de rendre les jugements chacun à son niveau, chacun avec ses compétences et chacun. Et ainsi, Moïse n'avait plus qu'à régler les cas graves. C'était un très bon conseil qui a été donné là à Moïse. Un conseiller qui vient à notre secours. Jésus-Christ, un conseiller qu'il faut aussi écouter. Et là, on a une belle histoire, enfin, dramatique histoire, un drame. On pourrait faire un film de ça. En 1 Roi, chapitre 12, versets 4 à 11. J'ai jamais vu de film sur ça, mais on pourrait en faire une belle pièce de théâtre. 1 Roi 12, 4 à 11. Nous sommes après la mort du grand roi Salomon. Et son règne avait été très long. C'était un roi qui avait très bien commencé, mais qui a mal fini. En cela, on retient surtout la période de sa jeunesse. Et voici ce qui se passe à la fin de sa vie. Son fils, Roboam, monte sur le trône de toutes les tribus d'Israël. Et donc, voici ce qui se passe. Verset 4. Il y a les serviteurs qui servaient avant Salomon et qui viennent trouver Roboam et qui leur disent « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous imposait ton père. » Il faisait faire beaucoup de travaux. « Et nous te servirons. » Il leur dit « Allez, revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Bon, il avait quand même 41 ans à ce moment-là. Il était plus très jeune. Et il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui se tient, le tient ce langage ? Allègue le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Et Jéroboam, donc, a choisi ce dernier verset. Et la conséquence, c'est que tous ces serviteurs qui venaient de toutes les tribus ont dit, on rentre chez nous, on s'en va, débrouille-toi tout seul, Roboam, fais toi-même le travail. Et donc, seulement 2 tribus sont restées fidèles à Roboam et toutes les autres ont fait sécession. Et cela a été un drame pour le royaume d'Israël qui a été ainsi divisé en 2, et ces 2 peuples vont se disputer, se faire la guerre, et ça va être quelque chose qui va être dramatique. Un conseiller qu'il faut écouter. Le roi Roboam a laissé les bons conseils qui venaient de la sagesse de son père, et la sagesse de son père venait de la sagesse de Dieu qui lui avait accordé pour suivre les mauvais conseils de ses amis avec des conséquences catastrophiques. Un conseiller qui vient à notre secours, un conseiller qu'il faut écouter, un conseiller fidèle, un conseiller fidèle dans toutes les circonstances. 2 Samuel 15, 31-34. Thank you. Donc on est au moment où David fait face à une coup d'État. Son propre fils le met dehors. Il le chasse du pouvoir. Et donc David prend la fuite, ne voulant pas qu'il y ait un bain de sang à Jérusalem. Il prend la fuite devant les conjurés. Et on vient dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, il se prosterna devant Dieu. Voici, Huskaï, l'archien, vint au devant de lui, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. David lui dit, si tu vis avec moi, tu me seras à charge. Au contraire, tu anéantiras à ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, au roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Et donc, c'est ce qu'a fait Achitophel, Huskaï. Achitophel était à ce moment-là un conseiller infaillible. Il avait la réputation de ne jamais se tromper. Hélas, Achitophel avait choisi le camp d'Absalom et trahi le roi David. On peut retenir de cette histoire que Jésus-Christ est fidèle et restera toujours à nos côtés. Jamais il ne changera de camp. Jamais ses conseils seront donnés contre nous. Mais au contraire, lorsque nous faisons des erreurs, lorsque nous perdons la communion avec Dieu, nous pourrons toujours le trouver et trouver ses bons conseils pour nous ramener dans la communion avec Dieu. Jésus-Christ est un conseiller absolument fidèle. Hélas aussi, Jésus-Christ est un conseiller méprisé. On voit ça à travers le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9. L'histoire d'un conseiller méprisé qui s'applique aussi au Messie. Donc l'Ecclésiaste, c'est après le livre des Proverbes. Écrit également par Salomon. Chapitre 9, versets 13 à 18. J'ai vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Salomon trouve ici son maître. Il y avait une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Et un roi puissant marcha sur elle. Il l'investit. Il éleva contre elle de grands forts. Et il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Jésus-Christ est aussi un conseiller méprisé. Dans les temps de détresse, devant les grands dangers, quand nous nous sentons incapables de faire face à une situation, alors nous recherchons le conseil du Seigneur. Alors nous nous tournons vers lui. Comment je dois faire? Comment me sortir de cette situation? Seigneur, viens à mon secours. Et quand nous sommes tirés de notre mauvais pas, nous oublions. Nous oublions. Un conseiller que nous méprisons si souvent. Alors, pour 2023, nous pouvons prendre comme bonne résolution d'être plus à l'écoute de celui qui est le divin conseiller, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de tous les jours, dans notre travail, dans nos activités, n'hésitons pas à lui parler, à lui demander son aide, son soutien, son conseil. Il est là pour nous aider. Et vous l'avez peut-être expérimenté. Moi, j'ai eu souvent l'occasion de l'expérimenter dans mon travail. Combien il m'a sorti de situations difficiles. Dans la vie de tous les jours, parlons au Seigneur Jésus, recherchons son conseil dans toutes nos activités. Lisons notre Bible. Il y a peut-être longtemps qu'on n'a pas lu le livre des Proverbes. Il est rempli de conseils pratiques pour ne pas tomber dans les péchés. Et il y a d'autres lectures de sagesse aussi. En conclusion, ne nous privons pas de Jésus, le divin conseiller, dans toutes les responsabilités qui sont devant nous, et si nous nous considérons libres dans le Seigneur Jésus. Notre Père Céleste, merci pour le don de Jésus-Christ. Merci parce qu'il peut nous apporter le conseil qui vient de toi. Tu ne nous laisses pas abandonner, mais tu veux que l'on fasse appel à toi. Tu veux que l'on te demande ton aide, ton conseil, la façon dont toi tu ferais. Seigneur, merci de cette façon extraordinaire dont tu veux cette relation avec nous. Merci parce que c'est auprès de toi que tu es le Dieu qui connaît tous les mystères, qui rien n'échappe à ta sagesse. Tu as créé l'univers par ta science et rien ne t'est incompréhensible. Et auprès de toi se trouve la sagesse. Seigneur, et tu nous permets de te demander, et tu nous accordes ton aide, nous de faibles créatures. Merci pour cette aide. Merci pour parce que tu veux nous faire grandir également, et nous faire grandir dans cette possibilité, cette liberté de faire des choix, de prendre des décisions, d'avoir des initiatives. Merci pour ton bon conseil à travers toutes les initiatives que nous pouvons avoir et toutes les œuvres que nous pouvons trouver à faire sur cette terre. Accorde-nous pour cette nouvelle année de faire des progrès dans notre dépendance de Jésus-Christ, dans notre communion, conversation avec toi, avec lui. Et Seigneur, pour que tout l'honneur te revienne à toi. Dans le nom de Jésus, amen. Amen.